Donc bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, parce que c'est tôt, on est samedi. Et puis juste un grand merci à la cellule CNRS Images qui est là aujourd'hui pour tourner des séquences pour notre projet. Alors on va vous présenter, on va prendre un gros quart d'heure pour vous présenter un peu le but de notre projet, pour vous expliquer en fait pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Voilà.
On fait cette présentation, je le redis, je tiens à remercier à la fois la structure, Éric Roux, et tous les participants qui ont répondu présents pour la journée. Voilà, acteurs de cette scène à divers titres, musiciens, fanzineurs, hommes de radio, etc., etc. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, les Bordelais, d'être présents.
C'est pas vous offenser que rappeler ce qu'est le punk, parce que régulièrement, il y en a qui savent pas. Je pense qu'ici, quand même, tout le monde a une idée. On est en 1976 et, on va dire, dans le monde occidental, tout un tas de jeunes gens, de groupes, s'autoproclament ou sont proclamés par les médias punk, qui est un terme anglais injurieux en fait, qui appartient à ces jurons de une syllabe fuck shit punk et qui signifie pourri, paumé, prostitué, homosexuel, voyou, donc un terme pas très recommandable. Là, on vous a mis quelque chose de très connu d'un fanzine. C'est juste pour illustrer la notion de simplicité musicale de cette musique. On fait un accord, on en fait deux, on en fait trois, on ne sait pas jouer, on fait un groupe. Le punk, c'est avant tout une révolte musicale contre la musique de la contre-culture des aînés, la musique progressive qui était faite par des gens qui savaient très bien jouer et composer de la musique avec des formats longs, 20 minutes. Là, on passe à une musique beaucoup plus énergique, beaucoup plus dense, beaucoup plus rapide. Un format punk, c'est 2 minutes et c'est déjà, il y a même encore plus court. Voilà, donc une révolte qui est d'abord musicale avant d'être politique. On vous a mis une petite phrase de Sarshooter qu'on aime bien. Les Beatles, c'est un groupe de nuls pour ringards. J'en ai rien à foutre qu'ils crèvent, c'est des chiens. Donc, qui illustre assez bien cette révolte musicale contre les groupes établis qui avaient encore qui jouaient à cette période-là. Alors, comme vous le savez, on a la primeur du premier festival punk de l'histoire avec Mont-de-Marsan, 2 éditions, 76-77, où un certain nombre de groupes, donc pas du tout que français, viennent dans les arènes de Mont-de-Marsan. On ira un jour sûrement à Mont-de-Marsan. Voilà, c'est des photos qu'on aime bien parce qu'on voit bien le tuilage générationnel dans les looks. En fait, il y a encore des pattes d'ef, il y a encore des cheveux longs. Voilà, on voit bien comment on est en train de passer d'une génération à l'autre, évidemment avec un effet de tuilage important. Alors, 1978, les Pistols split. Pour les puristes, le punk est considéré comme mort. Donc, il y a des grands débats. Pour les vrais, il n'y a plus rien à dire à partir de 78. Évidemment, ce n'est pas vrai, parce que dans d'autres contextes politiques qui changent, le punk va se renouveler, se durcir, avec l'apparition du hardcore, notamment. Voilà, et un changement aussi politique, un durcissement dans les démocraties. Jusqu'à arriver à une troisième génération avec des problématiques, celle de la COP, etc. Une génération qui finalement revient quelque part aux idéaux des babas qu'ils détestaient tant au début, c'est-à-dire défense de l'écologie, vegan, enfin toute cette lignée-là. Et on a vraiment une troisième génération de punk, on va dire, actuelle. Ils seront là à la table ronde cet après-midi, quelque part se disent punk, mais sont assez à l'opposé du programme originel qui était No Future, etc. Et dernière chose assez importante, c'est l'élargissement en fait de l'épicentre occidental blanc. Le punk s'étend aujourd'hui à des zones où il n'était pas en fait à l'origine. Donc là, on vous a mis janvier 2012 dans le monde. Je crois qu'on est en Indonésie. Plus de 60 punks ont été arrêtés, frappés et emmenés de force dans une école située à 60 km de la ville d'Aceh pour y être rééduqués. Donc on les prend, on les rase, on les trempe dans le ruisseau, on les met en prison et on réalise quand même que finalement sous la France de Giscard c'était quand même beaucoup plus confortable qu'en Indonésie. Mais c'est intéressant parce que ça montre aussi comment le punk s'est réinventé à la fois dans le temps et dans l'espace et comment cet objet... dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, même notre équipe au bout de 4 ans de recherche, ça reste la question clé, qu'est-ce que c'est vraiment le punk? On voit que ça c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui.
Alors, punk is not dead, pourquoi faire? Donc on vous a mis un petit peu les objectifs un petit peu de ce projet de recherche. Éclairer les spécificités, l'importance, l'originalité du phénomène dans l'Hexagone, c'est-à-dire considérer que la scène punk en France, elle a ses propres caractéristiques, spécificités, que c'est pas une simple copie ou un simple décalque de ce que des scènes anglo-américaines. Donc, qu'est-ce qui se passe en France et comment on peut essayer de comprendre ce phénomène en France? C'est regarder aussi la porosité des frontières. Alors, quand on parle de la scène punk en France, c'est pas forcément un phénomène au sens franco-français du terme. La scène punk en France, c'est considérer tout ce qui se passe sur le territoire français, y compris quand à Mont-de-Marsan, par exemple, il y a des groupes anglais qui viennent jouer. Donc on est bien à Mont-de-Marsan sur la scène punk en France. Et c'est aussi regarder de quelle manière les Français ont pu s'exporter, les groupes français ont pu s'exporter en Angleterre et ailleurs. Deuxième idée, c'est montrer de quelle manière le punk constitue un prisme fondamental pour comprendre un petit peu les fonctionnements de nos sociétés contemporaines. Un prisme fondamental pour comprendre comment on résiste, comment on se situe aux marges, comment on propose des solutions alternatives. Voilà. Donc c'est regarder le punk comme quelque chose qui est extrêmement important dans nos sociétés contemporaines. Troisième point, ce faisant, c'est proposer ou relire l'histoire de la France des 40 dernières années à partir de ces marges ou depuis ces marges. Ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, et montrer notamment, si on s'intéresse au phénomène punk, comment on est passé du no future à quel futur voulons-nous construire, de quelle manière et quel pas de côté voulons-nous faire. Alors, les enjeux de ce projet, il faut bien vous dire quand même que quand on a proposé avec Solveig de travailler, Solveig est au CNRS, je suis à l'université, travailler sur l'objet punk, on nous a un petit peu regardé bizarrement. C'est en gros, pour l'institution, le punk, c'est un objet qui pue, pour le dire très vite. Donc, un des enjeux du projet, casser les formes d'illégitimité de l'objet, c'est-à-dire montrer justement l'importance de cette culture, de cette musique, de cette culture dans la société, et notamment en France. Donc ça, c'est vraiment déjà un horizon extrêmement important. On a commencé à faire bouger un petit peu les frontières, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un work in progress. Deuxièmement, préserver une mémoire en péril. Alors là, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Avec le punk, on est quand même face à une population vulnérable de musiciens, d'acteurs de la scène. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent très jeunes. Et on a considéré qu'il y avait une réelle urgence à travailler sur la scène punk pour collecter la mémoire, collecter les archives et essayer d'imaginer comment on pourrait valoriser cette archive, cette mémoire. Et évidemment, comme on est dans un projet d'écriture de l'histoire, l'histoire, ça se fait aussi avec, ça se fait surtout avec du matériau, de l'archive, c'est pas un coup de baguette magique. Donc on a besoin de travailler et de travailler vite sur cette mémoire. Troisièmement, placer la musique au centre, c'est-à-dire considérer que la musique est fondamentale, l'émotion musicale, la musique est au centre du punk. Ce qui nous distingue un petit peu de la manière avec laquelle les Anglais, notamment sur des projets similaires, abordent le punk, eux considèrent que l'angle fondamental, c'est l'angle politique ou sociopolitique, et que la musique, c'est un petit peu secondaire. On a considéré qu'il était extrêmement important de placer la musique, le punk, c'est musique au départ, au centre de ce projet. Peut-être que tu veux compléter, Solveig, sur ce point ?
Non, pas nécessairement. Et l'idée, c'est de le faire... Alors, avec ce qu'on appelle de la science participative, c'est-à-dire on n'est pas que des chercheurs dans notre équipe, on est aussi des acteurs de la scène. Et le but, c'est vraiment de mutualiser nos regards et de nous apporter des compétences diverses les uns et les autres pour arriver à écrire cette histoire de manière commune. Là, on vous a mis une photo d'une journée d'études à Caen. On va dire que dans nos institutions, c'est pas extrêmement fréquent qu'il y ait un public aussi divers qui vienne assister à des journées. Et on est très, très, très contents de ça. Alors, comme a dit Luc, les archives, c'est vraiment le cœur du projet. Sans archives, en fait, on peut pas écrire cette histoire. Alors, c'est quoi les archives ? C'est des démos, c'est des fichiers, effectivement, vu qu'on travaille sur la musique, c'est des fichiers. Voilà, Ça, c'était pour illustrer les démos, tout le volet son. Ça, c'est pour illustrer tout le volet photographique. En fait, dans les archives, on se retrouve
c'est,
avec...
C'est la scène Corse. Ça, on est en train de prévoir une journée en Corse. Ouais, alors c'est un point aveugle, hein, quand même, le pain. À part Padovani, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, on est en train de travailler. Et en fait, il se passe énormément de choses. Énormément de choses.
Voilà, donc tout ce qui est aspect photo... Évidemment, tout ce qui est aspect flyer, Michel aura reconnu les flyers du squat de la miroiterie. Voilà, donc ça aussi pour nous, c'est des vrais archives qui nous permettent après de faire des traitements scientifiques en série. Ça, c'est Estelle qui aura reconnu l'arbre généalogique des groupes à Rouen. Voilà, ça aussi, c'est des choses très précieuses qui nous permettent qu'ils ont fait eux-mêmes. Ça nous permet d'identifier les groupes, de comprendre les relations que les uns ont avec les autres. Ça, c'est toujours dans la série du punk en Corse. Vous voyez qu'il y a Napoléon là marqué derrière, donc c'est des petits dessins. Évidemment, tout l'aspect fanzine qui est très important pour écrire cette histoire. Fanzines qui sont conservées à la Fanzinothèque, qui est un lieu avec lequel on est en partenariat et avec lequel on travaille. On a déjà organisé des séances de travail. Des arts graphiques. Alors là, c'était un tag qui était justement sur les murs du squat parisien de la miroiterie. Comme le squat a été détruit, ben, il ne nous reste plus que les photos. Donc aussi un important travail de choses qui sont perdues parce qu'elles ont été détruites. Et enfin, il est là. Évidemment, tout ça doit être mis en relation avec la parole des acteurs parce que c'est bien rigolo quand on a une photo, mais nous, on ne sait pas forcément qui est sur la photo. On ne connaît pas l'histoire de ces documents. Donc, s'il n'y a pas de parole des acteurs derrière, voyez là, on les fait parler.
Voilà. Alors, les musiciens de SS20, notamment groupe de Toulouse.
Voilà. Donc ça, c'est le travail d'archives dont on a besoin pour travailler. Alors, les archives, voyez, on fait ça... En do it yourself, là, en fait, elles sont... Moi, j'ai un bureau au Centre de musique baroque de Versailles. Donc là, c'est Monique et Dominique de la radio éphémère qui nous ont amené leurs archives en camion.
Donc il y a 14 mètres linéaires.
Depuis c'est... Toulouse. Voilà, ils ont monté les escaliers. Et après, on va vous montrer ce qu'on en fait. Alors ça, c'est les archives de la Rock School, justement. Voilà ce qu'on en fait.
Et du coup, là, on est en train de classer les revues de presse par année. Et on est en train de faire un petit document où on va vous envoyer... toutes les... enfin, toutes. Grossièrement, ce qu'il y a, quoi. Qu'il faudra après, je pense, ramener pour un tri, un classement plus précis.
Voilà, donc les archives, elles sont en ce moment de la Rock School dans le garage des parents de Manu. Le papa de Manu, je sais pas, il est où ? Ah, voilà, il est là. Et donc, on est en train de les trier, de les inventorier, voilà. Ça, c'est des photos qui montrent voilà, ce qu'on fait. On essaie, on essaie de les mettre dans des cartons neutres, en gros, de décoller les photos, de protéger tout ce qu'on peut pour éviter que ça soit détérioré trop rapidement.
Des Salles Majestés, là, notamment.
Ça, c'est les archives.
30 ans d'archives des Salles Majestés qui nous ont confiés.
Et ça finit comme ça, à la fin, avec un bel inventaire, des beaux cartons, bien classés. Et ça nous permet. Alors, d'une part, ça. Les institutions, elles sont contentes parce que c'est quand même un tri qui est fait dont elles n'avaient pas forcément le temps de le faire. Et surtout, c'est bien rangé, on peut naviguer dedans et nous, derrière, on peut travailler sur cette histoire.
Alors, écrire l'histoire de la scène punk en France. On a structuré le projet autour de quatre grands chantiers. Premier chantier, c'est le temps, évidemment, parce que on cherche à travailler sur la manière par laquelle une culture musicale, une musique s'inscrit dans le temps. Et je le redis, on a travaillé à partir aussi de certains paradoxes. Par exemple, qu'est-ce que c'est que cette musique qui était déclarée morte en 78 et qui, 40 ans après, est toujours là, hein. Donc le punk, c'est un objet qui est extrêmement paradoxal. Extrêmement paradoxal. Donc comment une musique s'est réinventée ? Alors on cherche à identifier des générations. La première, c'est évidemment celle de 77. Hein, on en a parlé avec des groupes comme Starfooter, Metal Urbain, Léo Lievenstein à Rouen. Strictine, Stalag, STO, Control, Riot. On en parlera tout à l'heure, c'est l'objet de la première table ronde. Voilà, une seconde génération beaucoup plus politisée. Hein. La question... du rapport aux politiques, elle est fondamentale. Dans la première génération, c'est vraiment casser les codes de l'establishment. La deuxième génération, celle des années 80, de la scène alternative, c'est un message beaucoup plus politisé. La jeunesse emmerde le Front National. Et cette troisième génération qui se segmente autour d'enjeux idéologiques. Alors, toute la dimension vegan, le discours féministe qui arrive, qui est beaucoup plus présent. des positionnements qui se spécifient, etc. Bon, ce travail sur le temps, il est, faut pas considérer que c'est coupé comme un camembert, parce que les groupes de première génération, certains existent toujours, donc il y a un tuilage aussi. Certains se sont même reformés. Voilà. On travaille à essayer de reconnaître aussi de quelle manière cette musique, il y a une forme de cohérence, elle génère des codes. Juste cet exemple, c'est quoi un punk en termes de look, hein, 77 dans les années 80 et plus près de nous. Vous voyez la transformation des looks et comment on arrive à regarder un petit peu cette transformation et ses significations. Voilà. Et puis, sur ce chantier du temps, c'est évidemment travailler sur la mémoire. C'est pas simple de travailler sur la mémoire parce qu'elles sont souvent en conflit, les mémoires. C'est-à-dire que chacun a sa version de l'histoire. Hein. Alors, à la fois, il faut la collecter, la mémoire, et après, il faut faire un vrai travail scientifique, hein, d'historien, pour essayer d'objectiver un certain nombre de choses, hein, croiser les témoignages, etc., etc. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, ça montre aussi que l'enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, c'était de la collecter, cette mémoire, avant qu'elle ne disparaisse définitivement. Hein, d'où la petite image, la vieillesse emmerde le Front National. Le deuxième chantier, c'est l'espace. Donc, comprendre comment une culture musicale s'inscrit dans l'espace. Un aspect fondamental du projet, déjà, c'est d'avoir montré que le punk, c'est pas juste l'affaire de quelques dizaines de personnes à Paris et dans quelques grandes villes, comme on entend très souvent. Très rapidement, on a compris, on a vu que le punk avait démarré partout sur le territoire, avec beaucoup de gens, dès les années 76-77. Donc c'est aussi un travail sur ces questions de l'espace. Regardez comment, territoire par territoire, le punk parle aux gens de manière différente, c'est-à-dire comment il y a un espèce d'ancrage un petit peu différentiel. Le punk en Bretagne, c'est pas tout à fait la même chose que le punk à Bordeaux, qui n'est pas tout à fait la même chose que le punk en Corse ou au Pays Basque ou en région centre. Donc regardez aussi comment cette culture s'inscrit dans l'espace et va se différencier.
Ça, c'est un aspect qui nous intéresse spécialement, c'est ce qu'on a appelé transfert et frontières. Autrement dit, est-ce qu'il y a des spécificités territoriales du punk en France ? Est-ce que sonner punk dans le Pays Basque, c'est différent ou pareil que sonner punk en Bretagne, par exemple ? Évidemment, la réponse est non, hein, on se doute bien, mais pourquoi ? Quelles influences entrent en jeu qu'avec les zones de contact en fonction des frontières ? Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver aussi à analyser, parce que la France, finalement, c'est assez grand, à analyser... la territorialité de cette musique et ses ancrages du point de vue local et très local. Troisième autre chantier qui nous intéresse, c'est sur les représentations. Donc comment la scène punk est-elle représentée, notamment dans les médias, alors officiels, mais aussi les médias issus de la scène, hein, les fanzines, j'en parlais tout à l'heure. Et... ça, c'est un autre chantier, comment la scène se représente. Alors, on a appelé ça la cohérence dans l'anarchie. On l'a vu tout à l'heure avec l'histoire de génération. À une génération correspond un look donné, une esthétique donnée dans les pochettes d'albums, un son spécifique. Donc, on voit bien comment, dans un mouvement qui prône le chaos, l'anarchie, on arrive quand même à établir des moments spécifiques de cohérence assez forts. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse bien aussi. Dernier chantier, c'est celui autour de la violence, supposée, réelle, fantasmée par l'extérieur, etc. À travers trois choses, c'est la violence des émotions, donc suscitée par la musique, par exemple le pogo, qu'est-ce que ça signifie, pogoter, voilà. Le corps punk, c'est pas un corps exactement comme normé, on va dire. Qu'est-ce que signifie ce corps ? Et on voit bien que c'est un corps qui n'est pas pareil en fonction des périodes. Le corps des punks de 76, c'est pas le même que celui des punks d'aujourd'hui, donc comment ça évolue, etc. Et dernier chantier, autour de la question du genre, les rapports hommes-femmes. Parce qu'on se rend compte que le punk, mouvement qui prône la liberté, l'émancipation, en fait, reproduit beaucoup ce que fait la société en termes de genre. Et donc, c'est une vraie interrogation. Des femmes dans le punk, il y en a très peu. Quand il y en a, elles sont aux entrées, elles font la cuisine, ou elles sont éventuellement à la basse, instrument réputé plus doux et plus facile à jouer. Donc voilà, c'est des choses qui nous questionnent. Quand on analyse le corpus de la période, le mot qui apparaît le plus, c'est salope. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et enfin, on est en train de réfléchir à un travail, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, autour de la stylistique du son punk, parce que comme on s'est pas trop ce qu'est le punk, on va essayer de voir si musicalement, on peut faire quelque chose qui nous permettrait de définir à quoi ça ressemble un style punk et donc des musiques qui ne le sont pas par élimination.
Pour le dire autrement, comment on sonne punk en 77, comment on sonne punk dans les années 80 et comment on sonne punk aujourd'hui. En fait, on sait bien que ce n'est pas la même chose et donc c'est travailler sur ce qu'on pourrait appeler, ce n'est pas un gros mot, une modélisation du son punk. Regardez comment ça se transforme.
L'un des moyens qu'on a pour arriver à ce projet, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle journée d'études et de rencontres, et souvent de musique, où on met les acteurs en réseau et puis on essaie de réfléchir tous ensemble, de voir s'il y a des archives qui sont dans des garages qui auraient besoin qu'on s'en occupe, etc. Donc c'est des journées, comme il y en avait beaucoup qui se demandaient à quoi ça ressemblait, donc on fait à la fois parler des chercheurs, on va dire, qui ont l'air sévères, on a pris une photo, ils avaient l'air sévères, voilà, des acteurs de la scène, vous aurez reconnu Nini,
Taïluc,
Herman,
André-Marc Dubos, Festival de Mont-de-Marsan, hein, à droite.
Voilà, ça c'est Chester. Voilà, ça c'était une photo le jour où on en a fait venir beaucoup, une belle brochette de punk. Voilà. C'est souvent de la musique. Là, on était à Toulouse, c'était les Sex Pistols, je crois, de mémoire, qui jouaient. Voilà, souvent de la musique, des concerts. On fait aussi des choses, donc en marge de ces événements, ça c'est un mur de fanzine qu'on avait fait pour une journée d'études à Caen. On en a refait un la dernière fois à Nantes. On fait des performances, des expositions. Alors là, c'était à une journée d'études sur les esthétiques. Derrière, il y avait Laurence et Magali et Michel qui faisaient des expériences.
Et Bernard,
graphique. On fait des expos photos aussi. Là, c'est Surinsky qui a tout un travail autour de la scène punk très contemporaine, parisienne plutôt, de la région parisienne. Voilà, et ça, c'est des expos photos. Donc vous voyez, il y a la photo derrière de Michel, il y a Michel, enfin voilà, donc... ça, on a mis cette photo parce que les repas partagés, parce qu'on mange toujours tous ensemble, c'est un des voilà, on se sépare pas, c'est quelque chose qui est important parce que finalement il y a beaucoup d'archives qui réapparaissent en buvant une bière. Elles avaient souvent disparu et puis après elles reviennent, voilà. Et ça, c'est notre féroce capteur de son qui capte toutes les journées. Et ces journées finissent sur le site internet du projet. Donc vous pouvez y aller. Il y a il y a des dizaines d'heures de son, vu qu'il y a 25 journées. Vous pouvez écouter fichier après fichier. Et ça donne déjà beaucoup, beaucoup de ressources sur notre projet.
Alors, PINT, c'est quoi ?
L'acronyme de Punk is not dead.
Punk pas mort ?
Le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
C'est un retour vers No Future qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Bordeaux, Rouen, Paris, Toulouse, Nantes, Poitiers, Rennes, Montaigu, Lyon.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futurs.
Ça parle de 77 et des années 80, 90, 2000, 2010.
Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule parfois, mais toujours pour comprendre.
Bref, c'est un truc essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs et des acteurs de la scène.
Une équipe terrible et tellement motivée. Do it yourself, just take a look. Voilà, merci. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée.
La programmation 2019 est pleine. En fait, on va aller à Montpellier en mai, dans le Pays Basque à la Tabac, à Biarritz en juin. Ensuite, on va aller en Bourgogne à Dijon en septembre. On va aller à Marseille en décembre. Et on a aussi à Paris, on fait des journées thématiques, donc pas locales, sur des grands thèmes qui nous intéressent. Et l'année prochaine, on vise une journée sur le punk en Corse, justement. Donc voilà, mais on continue à tourner. Enfin, ça dépend. Il y a des fois, on va dans des petites villes comme Montaigu, on fait des micro-scènes. Et puis des fois, on fait des territoires un peu plus larges. Mais on a encore... Le Nord n'est pas couvert pour l'instant. Enfin, il y a encore des zones... voilà. Mais le Nord n'est pas couvert parce qu'on n'a pas de chercheurs pour l'instant dans le Nord. Donc voilà, ça va se faire.
Mais pour répondre à ta question, c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans la durée. On n'a pas prévu de fin, si tu veux. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.